gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu au 102.2 sur Lyon ou sur radiocanu.org partout ailleurs. Eh bien, vous êtes bien à la causerie, les 22h et des petites brouettes.
Ouais.
Et ce soir, on a Clara la technique.
Bonsoir.
Il y a Fab qui est là aussi.
Salut.
Et puis ben, il y a moi.
Salut Jean-Yves. Et on salue Jonathan, on salue Emma, pardon, j'avais perdu ton prénom, Emma, excuse-moi. Et on salue Nadège qui ne seront pas là ce soir.
C'est ça. Et ben alors ce soir, la causerie, ben, on va déjà vous rappeler pour nous contacter. C'est toujours pareil si vous êtes des assos ou pas d'ailleurs.
Qui que vous soyez.
Des artistes ou pas d'ailleurs, des auditeurs, des auditrices. Enfin, si vous avez des retours à nous faire, vous pouvez le faire par mail à
lacauseriecanu@gmail.com.
C'est ça. Et vous pouvez retrouver toutes les causeries passées
et futures.
Bah, un jour, celles qui sont dans le futur, elles seront dessus parce que ce sera le passé.
Tout à fait.
Voilà. Et
donc, sur blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Et bien c'est ça, c'est formidable.
Et aussi sur Facebook.
Oui, c'est vrai, il y a un espace.
On met les liens voilà, sur une page Facebook. Si, voilà.
C'est ça, vous n'y trouverez rien de plus.
Non, et on va redire aux gens, si vous voulez nous contacter, vraiment c'est par mail, parce qu'on ne lit pas forcément les messages Facebook.
Ouais.
Voilà, donc par mail, vraiment.
Non, c'est bien Facebook pour se mettre en contact, mais après on peut aussi diversifier nos pistes, en fait, quoi.
Voilà.
Hein? Voilà,
comme,
voilà.
Comme au ski.
C'est ça, effectivement. Effectivement. Mais sans bâton. Alors...
J'attends que tu me lances, en fait.
Je vais te lancer, tiens-toi bien.
Voilà, je suis comme un cheval.
tout doux, voilà. Alors, ce soir, on retrouve un format un peu plus habituel, parce qu'on va avoir trois petits sujets comme ça. Et c'est Fab, tu vas commencer en nous parlant de la violence syndicale.
Ouais, voilà. C'est un peu le sujet du moment. Et j'avoue que j'ai hésité un petit peu à en parler ou pas dans la causerie parce que je me suis dit c'est un peu devenu le marronnier de la semaine où tous les journaux en parlent. Et puis en fait, je me suis rendu compte que si j'allais en parler, mais parce que je trouvais qu'il y avait des manques et des manquements dans les journaux et que surtout, on avait un bel exemple là de ce qu'était ce que j'appellerais la propagande de classe. Parce qu'on était typiquement dans quelque chose qui est de la propagande pure de classe. Alors pour les auditeurs de droite qui m'écouteraient, je ne suis pas en train de parler des gens qui ont arraché la chemise et qui seraient des vils propagandistes, mais plutôt de la façon dont on a traité cette information. Alors soyons clairs, oui, il y a deux personnes, DRH de leur état et l'autre je ne sais plus ce qu'ils faisaient, qui sont des cadres dirigeants d'Air France, qui ont été légèrement bousculés à la sortie d'un CCE où ils annonçaient, alors CCE, Comité Central d'Entreprise, pour les gens qui ne connaissent pas, où ils ont gentiment annoncé avec le sourire qu'ils allaient virer 2900 personnes. Alors, On va replacer dans le cadre. Air France ne perd pas d'argent depuis des années, contrairement à ce qu'on dit. En fait, Air France n'émet pas de bénéfices. Mais quand on ne fait pas de bénéfices, ça ne veut pas dire qu'on perd de l'argent. Il faudrait faire un peu d'économie, parce que déjà, on entend partout, Air France ne faisait pas de bénéfices, donc perdait de l'argent. Ah non. Non, non, le bénéfice, c'est ce qu'on fait quand on a tout payé, salaire compris, et que bah il en reste un petit peu, et bah ça s'appelle le bénéfice. Mais sinon, si vous pouvez tourner une activité à zéro, c'est-à-dire sans faire de bénéfice ni sans perdre d'argent. Je vais prendre un exemple beaucoup moins grand qu'Air France. Radio Canu fonctionne comme ça, c'est-à-dire depuis quelques années maintenant, et c'est pour ça qu'on fait un appel aux dons. On ne fait plus de bénéfice, entre guillemets, on ne met pas d'argent de côté, on est à zéro, c'est-à-dire que tout ce qui rentre bah sort dans l'année, et qu'il nous reste rien à la fin de l'année. Et pourtant, Radio Canu existe toujours. Ben, Air France existe toujours. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le même truc. Air France a emprunté de l'argent il y a quelques années pour verser des dividendes aux actionnaires. Alors, quand on emprunte pour verser des dividendes, c'est pas qu'on perd de l'argent, c'est qu'on fait le choix de s'endetter pour verser des sous aux gens qui nous servent d'actionnaires. Hein, voilà, on reclasse un petit peu les choses. Et puis, Air France, c'est déjà 9000 emplois qui ont été supprimés depuis 2013. Voilà, 2012-2013, c'était le plan 2012-2013, donc début 2013, fin du plan, du premier plan des cinq qui ont suivi, parce que si on compte bien, ça fait cinq, c'est le cinquième plan qu'on leur annonce quand même. Et donc c'est déjà 9000 emplois supprimés. Donc ça veut dire, eh ben, autant de gens qui se retrouvent avec plus de travail à faire, avec moins de monde, parce que les vols, entre temps, eh ben, ils ont augmenté.
Oui, c'est ça.
Il y a plus d'avions qui volent, il y a plus de rotations, comme on dit chez les avionneurs, il y a plus de besoins de personnel, mais vous virez du monde. Donc, quand vous faites ça, c'est que vous mettez la pression sur le personnel restant. Et puis surtout, vous créez du chômage.
Vous mettez
9000 personnes dehors. Alors c'est 9000 personnes dans les plans, et en tout, c'est 12700 personnes qui ont quitté Air France, parce qu'il y a aussi les fameux départ en retraite non remplacé. Ça, c'est pas un plan social, c'est-à-dire que vous laissez la personne partir, puis vous mettez personne sur son poste. Donc ça, vous voyez, ça fait déjà 13 000 personnes quasiment qui ont disparu d'Air France. Donc on est dans ce contexte-là, et dans ce contexte, on a une direction d'Air France qui veut renouer avec les bénéfices. En gros, elle veut pouvoir reverser du fric aux actionnaires. Hein. Très clairement, si le bénéfice était réinvesti, ça se saurait, parce que c'est pas vrai. Dans la plupart des entreprises du CAC 40 aujourd'hui, entre 40 et 70% du bénéfice vont dans la poche des actionnaires, donc c'est pas du réinvestissement. Et Air France veut en fait clairement redevenir une entreprise attractive d'un point de vue boursier. Alors dans l'idée, a priori, de pouvoir acheter une compagnie sœur, on ne sait pas laquelle, mais il y a aussi cette idée derrière. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont dit aux pilotes, vous allez travailler 100 heures de plus. Alors c'est bien parce que dans les médias, on vous dit 100 heures de plus, alors les gens ils disent, ouais, mais 100 heures, c'est pas grand-chose. Déjà, on remet sur un travail normal, 100 heures, c'est 3 semaines de travail. Sauf que quand vous êtes pilote d'avion et que vous volez 100 heures de plus, en fait, c'est 2 mois et demi gratuits. Oui, parce que quand vous allez à Acapulco, vous ne décollez pas tout de suite là au bout de 8 heures, vous voyez. Vous avez des battements obligatoires qui ne sont pas dans votre temps de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on vous laisse sur place, on vous laisse pendant 12 heures, je crois que c'est 12 heures le temps de battement.
Et ça, c'est pas compté comme temps de
travail. Eh ben non, c'est hors temps de travail. Donc c'est assez simple, c'est-à-dire que ce qui compte sur les 100 heures, c'est simplement les 8 heures qui ont été l'heure de vol, plus les 3 heures de préparation de l'appareil. Parce que ça, c'est dans les accords, j'ai regardé. C'est-à-dire que sur 8 heures, vous en faites 11 en réalité, quand vous faites un vol de 8 heures. Et tout le reste, en fait, c'est hors temps de travail. Donc, on vous paye un logement et tout sur place. Hein. Enfin, c'est un peu la moindre des choses. Donc, voilà. Mais pour être très clair, pour faire 100 heures, en fait, c'est ce que disaient les pilotes, ça veut dire qu'ils font 10 allers-retours. Enfin, ils font 5 allers-retours en plus. Okay. Oui, parce que 8 heures de vol, vous voyez, pour les longs courriers, ça fait 5 allers-retours sur un vol de 8 heures. 5 fois 11, 55. Voilà, ça c'est le minimum. Et qu'en dehors, ils doivent faire, c'était dans l'accord qu'on leur proposait, des vols intérieurs en plus. Parce que là, par contre, il n'y a pas d'escale. Donc, vous pouvez vous arrêter que 2 heures et faire plusieurs rotations dans la journée, machin et tout. Sauf que ce qu'expliquaient les pilotes, c'est qu'au final, mis bout à bout, ça fait jusqu'à 2 mois et demi de travail en plus gratuit. Alors moi, je connais pas beaucoup de salariés à qui on dirait « Salut, tu veux pas travailler 2 mois et demi gratos pour la boîte ?» qui dirait « Oui, bien sûr !» Non, ça, j'en connais pas beaucoup. Heureusement, hein, parce que sinon, on serait mal. Mais l'entourloupe, elle est encore plus grande. Comme le disaient les syndicats de personnel navigant et non navigant, quand un avion décolle, il décolle pas qu'avec le pilote. Oui. Il décolle avec les hôtesses de l'air et stewards. Il décolle avec les bagagistes qui ont rempli l'avion. Il décolle avec les gens de la sécurité qui se sont occupés à faire attention à ce que vous rentriez dans l'avion. Donc si vous faites travailler les pilotes 100 heures de plus, vous faites travailler de fait les personnels au sol, plus les stewards et les hôtesses, 100 heures de plus.
Et ça, tout ça sans créer de l'emploi.
Et tout ça sans créer d'emploi. c'est Donc, ils étaient un peu énervés, vous comprenez, c'est à un moment donné, c'est un peu agacé tout le monde, ce qui se comprend parfaitement. Et pour une fois, il y a eu, avant l'arrachage de chemise, la première réunion intersyndicale d'Air France. C'est-à-dire que devant le CCE, manifestait l'ensemble des personnels d'Air France. Du pilote au bagagiste. C'est-à-dire du, on va dire, du cadre supérieur de l'entreprise, le pilote, ou à l'ouvrier d'Air France, pour faire un parallèle avec le monde de l'industrie.
Ce qui en soi est déjà... Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un
ah non, mais le,
que j'ai, mais c'est rarement que je verrais ces gens dans la même manif, en fait.
Ça ne s'était pas produit depuis 2011, donc c'est d'accord, pas compliqué. Okay. C'est extrêmement rare que l'ensemble du personnel d'Air France se réunisse. Et c'est ce qui s'est produit. Et en fait, ils ont décidé d'envahir le CCE, ce qui n'est pas une technique syndicale que je réprouve, bien au contraire, parce qu'aller demander directement des comptes à votre patron, c'est quand même pas non plus grave. C'est ça, voilà. Donc, d'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent, je vous invite à les voir, et vous voyez un petit peu comment une grande direction répond à ses salariés lorsqu'elle les a en face d'eux. Elle leur répond par le mépris. C'est qu'en fait, elle ne leur répond pas. Et c'est ça qu'on voit. Mais ça, on l'a pas vu beaucoup aux infos. Ce qu'on a vu beaucoup, c'est les deux petits gars qui se sont arrachés leur chemise. Et alors après, là, on va dans la désinformation totale. D'abord, on oublie complètement de rappeler que, avant qu'ils se fassent arracher leur chemise, il s'est passé quasiment trois quarts d'heure où ils n'ont pas tiré un mot, où ils étaient dos tournés aux salariés qui étaient présents dans la salle, où ils touillaient leur café, où ils parlaient entre eux, où ils tweetaient, ils étaient sur leur iPhone, leur portable,
avec un mépris total. Incroyable.
Et a priori, d'après le témoignage de plusieurs personnes, lorsque le fameux DRH qui s'est fait arracher sa chemise est sorti, il aurait dit: de toute façon, ça ne sert à rien qu'on parle, vous ne comprenez rien, vous êtes trop bête. Vous voyez ? Donc on est dans ce constat-là. Bonne ambiance.
Je trouve qu'au niveau du mépris, une chemise arrachée, c'est...
Voilà, c'est juste pour reposer le fait que, dans ce cas-là, il y a des gens qui peuvent exploser. Parce que qu'on le veuille ou non, on est humain. Et que moi, je ne crois pas trop qu'on puisse me cracher à la gueule sans que j'ai envie d'en mettre une droite. C'est un peu con, mais c'est un peu ce qui s'est produit. Et je pense qu'il faut être très clair. La violence, elle est d'abord dans l'annonce des 2900 suppressions d'emplois, elle est d'abord dans l'attitude des dirigeants, qui ont une attitude méprisante et méprisable, parce que dans les deux sens. Elle est d'abord dans la façon dont ils ont appréhendé le problème, parce que très franchement, parler aux gens comme ils ont pu leur parler, ou ne pas leur parler comme ils l'ont fait, c'est une preuve de mépris hallucinant. Et ensuite, s'étonner qu'on ait brocardé ou bousculé, c'est quand même dingue. Mais ça s'arrête pas là, les mensonges. Quelques heures après, on nous annonce qu'il y aurait un vigile qui aurait été dans le coma. Alors là, vous vous rendez compte, c'est un mot fort, coma, quand même. Ouais. Il a été dans le coma, machin et tout. Alors, moi, je suis bête et méchant, je tape sur Internet, vous savez, on cherche sur Google, vigile dans le coma, ça devrait quand même se savoir. Et en fait, on découvre qu'il a perdu connaissance 7 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, il a pris un mauvais coup, ce qui est vrai, ça peut arriver, à la tempe, il a perdu connaissance. Il a été mis de côté par des syndicalistes qui étaient présents. Les premiers soins lui ont été apportés par des personnels d'Air France et les pompiers l'ont emmené ensuite. Et ensuite, il est allé à l'hôpital, ce qui est normal, parce que quand on perd connaissance, on est emmené à l'hôpital. Il est où le coma, en fait, là ? Parce que je veux dire, le coma, c'est clair, c'est 12 heures, normalement, minimum. C'est une perte de connaissance de 12 heures. On n'est pas dans le coma. Sauf que les médias parlent d'un coma. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on est sur une échauffourée. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs se demander pourquoi une direction a besoin systématiquement de venir avec des vigiles. Bonjour le climat de confiance, c'est-à-dire que d'un seul coup, la première chose que vous mettez en face de vos salariés, c'est des vigiles. C'est ouais, les gueux ne venez pas.
J'ai envie de te dire, ça rejoint un sujet plus tard, mais même le pape a des gardes-corps. Pourtant, il est sous l'égide de Dieu. Alors, un patron, tu
Mais oui, vous voyez, mais tout est dans l'image aussi. C'est-à-dire mais que oui, quand vous renvoyez l'image que vous ne voulez pas qu'on vous approche, c'est quand même l'idée qui est renvoyée là. Et alors, bien sûr, maintenant, il justifie les vigiles en disant oui, mais vous voyez bien ce qui s'est passé. Non, mais attendez. Ce qui s'est passé, c'est la conséquence de tout un tas de montées de pression qu'il y a eu avant. C'est pas parce que les salariés seraient, enfin les travailleurs seraient mauvais de fait et qu'ils auraient envie de pendre leur patron, même si je les désapprouverais pas forcément. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est vraiment dans un montage clair qui est de faire monter la pression pour que se crée un événement. Alors je pense que l'événement les a dépassés, clairement. Ouais. Mais oui, alors les deux gars se font arracher leur chemise. Alors, il y a eu cette première fausse info du coma. Et la deuxième fausse info, c'était les coups qu'auraient reçu les deux dirigeants. Alors, quand il n'y avait pas d'image, il parlait du fait qu'ils avaient été roués de coups, traînés au sol. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu l'image de quelqu'un qui est traîné au sol et tabassé à coups de talons. Ça, c'est BFM. Donc, on est quand même bon, là. Alors, c'est embêtant parce qu'au bout d'un moment, il y avait des télés sur place qui ont sorti des images. Et merci notamment à Euronews qui, pour une fois, a fait un très bon no comment parce qu'ils étaient sur place et ils ont filmé. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas à un seul instant. Alors, on voit effectivement leur chemise être arrachée. Oui. On voit des gens les retenir parce que pour arracher une chemise, il faut tenir un petit peu. Ça, oui. On ne voit pas de coups. Pourtant, si vous regardez sur Euronews, c'est encore en ligne. C'est filmé en gros plan, donc on ne voit pas de coups partir sur ces personnes. On voit effectivement les gens leur arracher la chemise parce qu'en fait quelqu'un a crié « puisque vous nous mettez à poil, à votre tour ». C'est fin, c'est pas fin, on s'en fout, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Et on voit tout ça en fait. Et là d'un seul coup, hop, dans les médias, le ton change. Ah ben non, en fait ils se sont blessés en tombant, en courant. Parce qu'effectivement, il y a des images où on le voit partir en courant, ce brave monsieur, et se vautrer, parce que je pense que courir en talonnette c'est pas facile. Et effectivement, c'est là qu'il s'est blessé. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir été frappé avant. Mmh. Et c'est de la désinformation pure. C'est clairement une information de classe qui est vouée à mettre l'hégémonie sur l'ensemble des salariés et des gens en lutte, parce que c'est ça aussi l'idée, parce que dans la tête des journalistes ça va beaucoup plus loin qu'Air France. C'était une semaine où il y avait une manifestation le 8 octobre à l'appel de plusieurs syndicats, donc ça tombait super bien d'aller faire de la haine anti-lutte, c'était le bon moment pour le faire, et ça a été bien mené jusqu'à notre Premier ministre, jusqu'à notre président, jusqu'à tous ces gens qui sont allés jusqu'à dire pour Manuel Valls que ces gens étaient des voyous. Non mais Manuel Valls, des voyous, tu t'as entendu Manuel, à un moment donné, tu redescends sur terre là, parce que dans tes potes, il y en a combien qui font de l'évasion fiscale, qui empêche les gens d'avoir de l'argent, qui licencient des gens à tour de bras, et quand toi tu vas au MEDEF gentiment dire que tu aimes l'entreprise, t'es pas plus voyou que les gars qui essayent de défendre leur beefsteak et de ne juste survivre, parce qu'on en est là quoi. Et donc je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai climat de merde qui s'est instauré autour de cette affaire, et elle est très symptomatique justement du fait qu'en France la presse est majoritairement détenue par des industriels. Elle est symptomatique du fait qu'en France la presse sert avant tout les puissants, et systématiquement la presse au sens large, les médias au sens large, que les médias indépendants sont extrêmement rares, vraiment, et que très honnêtement, j'ai été même très surpris, je vais le dire là, par Mediapart, qui a fait un drôle de papier, un peu ambigu, que j'ai trouvé assez étrange, c'est-à-dire, voilà, et entre le oui et non, voilà, et j'ai trouvé vraiment bizarre, parce que d'un seul coup, ils faisaient une espèce de parallèle un peu étrange entre le fait de devoir taper un dirigeant pour obtenir ce qu'on veut, mais si on avait fait ça dans l'histoire. Alors ça m'a fait rire cette phrase, parce que je crois qu'il faudrait regarder qu'on a fait ça dans l'histoire, et que c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'on s'est débarrassé de la royauté. Enfin, petit mémoire, avant 1789, tout ça. Donc c'est quand même un peu étonnant. Ce climat m'a vraiment surpris, mais pas surpris parce qu'il existe, parce que je m'y attendais, mais surpris par l'ampleur qu'il a pris et par le volume de médias qui ont été capables de reprendre tout ça. La une de Libération sur une chemise arrachée, le jour où il y a 70 personnes qui meurent sous des bombardements à Homs, j'ai envie de dire waouh, putain, bonjour le parallèle quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, la pauvre chemise Pierre Cardin du brave DRH est plus importante que la mort d'êtres humains sous des bombardements quoi. Je veux dire, en ce moment, enfin, il y a peut-être plus grave que ça déjà, et puis il y a peut-être à un moment donné un besoin de comprendre ce qui s'est passé, et de comprendre que la colère, ben des fois c'est pas toujours policé. C'est pas toujours gentil. Des fois, ça prend pas de gants et ça tape, quoi. Mais ça, c'est un peu pas illogique. Ça s'appelle un climat révolutionnaire, en fait. Voilà.
Bah oui, et puis si on regarde un peu quand même dans les dernières années passées, etc., on a quand même. Ils ont peut-être peur aussi que au fur et à mesure, ça monte un petit peu de plus en plus, etc. Parce que.
On se rappelle des Conti, où ils avaient fait exactement la même chose Moi, je me rappelle de Xavier Mathieu, interviewé par. Comment il s'appelle l'autre, la Pujadas. Qui lui dit vous devez condamner les violences. Mais pourquoi on devrait condamner? Enfin, je sais pas, il arrive un moment, mais mettez-vous à la place des gens qui sont en train de tout perdre. Deux minutes, quoi.
Mais c'est surtout que, en fait, le problème. Alors, autant que les médias, la diffuse ce genre de choses, ce qui est plus problématique, c'est que c'est nous, les citoyens lambda, qui croient à tout ce discours-là, alors qu'ils sont plus proches du bagagiste de chez Air France qu'ils ne seront jamais plus proches de leur patron et du patron d'Air France. C'est ça qui est toujours dingue, c'est que cette division des salariés, etc., de la classe des producteurs, des productrices, je sais pas comment on peut dire,
des salariés prolétaires à une époque, celui qui produit,
ouais,
etc.
c'est ça. Et ben ça fonctionne encore, quoi. C'est quand même assez affligeant. C'est assez affligeant. Et en même temps, c'est. Enfin...
Je voudrais juste quand même rajouter qu'Air France a posé une plainte, qu'a priori, il y a 4 ou 5 personnes qui ont été identifiées grâce aux vidéos, parce que ça n'a pas que des bons côtés, la vidéo. Qu'elle risque donc un licenciement, et elle risque vraiment d'être licenciée, mais surtout, elle risque d'aller au pénal. Et qu'Air France porte plainte quand même pour coups et blessures aggravées, c'est-à-dire, c'est jusqu'à 10 ans de prison, je le rappelle. Donc 15 ans même, non, il y aurait que la nouvelle loi. Donc voilà, voilà ce que risquent les gens pour avoir arraché une chemise. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse. La plupart des syndicats d'Air France ont décidé de ne pas retourner à la table des négociations tant que la direction ne levait pas sa sanction. Et le SNPL, le syndicat des pilotes, a refait ce qu'il fait tout le temps. Il est retourné à la table des négociations avec voilà, la direction. Et là, ça me gave parce que je me dis, ben, c'est un peu facile quoi, de se dire non, mais nous, on n'est pas comme eux, on va discuter. Je trouve que c'est un peu pourri. Voilà. Et ça, c'est aussi dans les syndicats qu'il y a de la division de classe. Il ne faut pas non plus se mentir. Voilà.
C'est ça.
Musique ?
Allez, passons à la musique.
Décimum, j'ai pas fait gaffe à la connerie de tous ces grands. Maintenant que je le suis, je suis tellement con que je presse mon temps comme une orange. J'aurais voulu revoir grand-père pour qu'il me raconte une belle histoire. J'aurais voulu revoir grand-père, y'a plus de lumière et je suis dans le noir. Un coup j'entends le brigadier qui m'interpelle comme un vieux sac. Le dos au mur, j'étais bloqué, c'était le Corse. Patron du sac, il me dit passe tout, je lui dis passe quoi, il me dit le tout, je lui dis que j'ai rien, il me dit bougnoul, je lui dis fondou, mais je lui dis que là, j'ai rien, il me dit au boss, je lui dis pourquoi, il m'a frappé comme un maquereau, j'ai fait des yeux de merlan frit et j'ai filé comme un rat. Savoir le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans, la douce enfance m'adore tellement qu'elle m'interpelle à chaque tournant. J'ai pas le profil d'un président, pour eux je suis né pour être brigand. Demande à Jacques le fataliste si j'ai le cran d'être aussi grand. Ici le rêve s'est fait trahir par une monnaie qui est pas la mienne. Ici le rêve s'est fait bannir par des pensées industriel, et ça te plaise, en fait je m'en fous, on voudrait tant que je joue de la truelle. J'ai fait mon choix et c'est ainsi, je crée un deuxième.
J'ai un deuxième
truc cruel. Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans. Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans. D'un maghrébin, quand t'as 20 ans, tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin. Je veux savoir à quoi le voisin me regarde chelou à chaque matin. Tu veux savoir à quoi l'école a fait de moi quelqu'un d'aigri. Je veux savoir à quoi et si je manque de confiance, la justice. Tu veux savoir à quoi au fond je m'en fous un peu de tout ce qu'ils me disent. Le quotidien c'est moi qui le vis, le plus souvent c'est moi qui le vise.
Quotidien, quotidien, un maghrébin, quand t'as 20 ans, tu veux que je te dise, quotidien, quotidien.
Et oui, c'est bien la causerie dimanche 22-23h. On vient d'écouter Ridan avec Le Quotidien. Ridan, un excellent chanteur qui manie les mots avec passion, je dirais, parce que quand on l'écoute, on sent que c'est ciselé et superbement bien écrit. Et maintenant, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, Jean-Yves va vous parler de la religion majoritaire au sein de l'Union européenne, car il est temps de faire un point sur nos amis, les chrétiens.
Oui, c'est ça. Ben ouais, en fait, je me disais, tiens, parce que des fois on me dit, ouais, tu fais trop sur les religions, et je me disais, tiens, ça fait au moins un mois que j'en ai pas parlé. Alors au moins ceux qui m'aiment pas, ben vous continuerez de pas m'aimer, c'est quand même, ça vous rassurera. Et ceux qui continuent de s'intéresser aux méfaits des religions, et là plus précisément...
La catholique, pas la chrétienne, parce que c'est...
Ouais, et ben, autant continuer de se donner un peu des nouvelles.
On me dit dans l'oreillette, on dit les chrétiennes, car ce sont des religions. Voilà, je vais me coucher après.
Voilà, on remercie d'ailleurs les gens qui travaillent pour l'oreillette.
Oui.
Alors, quelques petites infos. Donc, j'ai un peu compilé les deux petites infos qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Et on va commencer par ce coming out quand même d'un curé, d'un prêtre polonais qui s'appelle toujours Christophe Olaf Karamza, qui a 43 ans, qui était membre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
L'Inquisition, s'il vous plaît, parce que c'est le nouveau nom de l'Inquisition.
C'est l'organisme romain chargé de veiller à la cohérence de la doctrine. Et donc il a révélé être homo et avoir un compagnon, et il disait, je le cite, qu'il ne voulait pas encore attendre encore 50 ans. L'Église doit ouvrir les yeux face aux gays croyants et que l'Église comprenne aussi que la solution qu'elle propose, à savoir l'abstinence totale dans une vie sans amour, et une vie sans amour n'est pas humaine. Donc voilà, donc bon, il...
Ah bon ? Merde alors.
Donc lui, il est... Il continue quand même de porter sa foi, hein, c'est pas le problème. Non, mais ce que je trouve, c'est quand même intéressant, parce que je trouve que c'est quand même courageux, finalement, d'être dans une autorité religieuse, homophobe et tout ça, bah, de se dire, bah, en fait, bah, non, je vais plutôt choisir l'amour que votre doctrine.
Mais la réponse a été magnifique, hein, de dire qu'il faisait ça parce que le synode sur la famille allait s'ouvrir et qu'il voulait avoir les médias sur le braqué sur lui.
Alors, le truc, c'est que, alors lui, il disait, en fait, c'est, Il veut pousser l'institution religieuse à changer son regard sur les homos. Je le cite encore, hein, « Réveille-toi, Église, lance-t-il, cesse de persécuter les innocents, je ne veux vraiment pas détruire l'Église. » Malheureusement, j'ai envie de rajouter. Je veux l'aider et surtout, je veux aider celles et ceux qu'elle persécute.
Ce n'est pas Jean Mélier qui veut, quand même.
Non, c'est ça. Mon copain, pardon. Je m'en mêle. Arrêtons. Mon coming out doit être un appel au synode pour que l'Église arrête ses actions paranoïaques à l'égard des minorités sexuelles. Je trouve quand même qu'il pointe deux, trois choses assez intéressantes. Et je vais terminer... Si je vais terminer par ce qu'il continuait de dire aussi, il disait qu'il voudrait dire au synode que l'amour homo est un amour familial, tout ça. Enfin, c'est vraiment
là on sent son côté pas réactionnaire, comme on dit, conservateur
quoi, la famille, tout ça, c'est toujours très joli. En même temps, quand on regarde, c'est pas le seul, hein.
Non, tout à fait.
Et les autres sont pas forcément
prêtres.
Enfin bref. Et quand même, donc le Vatican n'a pas tardé quand même à sanctionner, hein, je veux dire, faut pas déconner, l'homme d'église, hein, jugeant ce coming out, je cite, très grave et irresponsable. Responsable à la veille de l'ouverture du synode. Évidemment, Monseigneur, Karamza ne pourra plus continuer à assurer ses fonctions précédentes auprès de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Faut pas déconner quand même.
Voilà.
Bien réformé, mais pas trop.
Bah ouais. Et donc, je voulais terminer, par ces mots, je les ai retrouvés. Bah donc, toujours de ce monsieur Karamza, qui disait en fait le clergé est largement homosexuel et aussi, malheureusement, homophobe jusqu'à la paranoïa, car paralysé par le manque d'acceptation pour sa propre orientation sexuelle.
Ah, mais on savait que ça s'enfilait dans les séminaires, mais il confirme.
c'est quand même assez énorme. Et alors,
c'était une phrase d'Audiard, je voulais la placer.
Okay. Et alors honnêtement, j'ai refait d'autres recherches et il y a un autre Curton en fait qui a fait son coming out, en tout cas qui a avoué ou qui a dit publiquement en tout cas qu'il avait fait lui-même son coming out il y a 10 ans. Et en fait, merde, Je sais plus pourquoi je vous dis ça.
Non, mais il parlait aussi du séminaire en disant que 4 sur 6 de ses amis étaient homo. Ouais.
Et c'est assez terrible. Enfin bon, voilà pour la première nouvelle. Hein. On va passer à une seconde nouvelle, donc qui date du 4 octobre, jour d'ouverture de ce synode. Mmh. Donc synode, organisation religieuse qui va se poser avec 300, je crois, évêques de travers le monde. Autour de la famille.
Parfois, ça donne stupéflip et le synode Pibouin, mais c'est pas tout le temps bien.
Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ce jour-là, monsieur, le soi-disant pape, qui est tellement de gauche et tellement sympathique, hein, vraiment, vraiment, on hallucine, quoi, tellement qu'il est avant-gardiste. Et donc, bah, lui, il a commencé, je vais citer vraiment tout son texte, hein, c'était « Jésus, face à la demande rhétorique qui lui est faite, probablement comme un piège, pour le faire devenir tout à coup antipathique à la foule qui le suivait et qui pratiquait le divorce comme réalité enracinée et intangible, répond de manière franche et inattendue. Il fait tout remonter à l'origine de la création pour nous apprendre que Dieu unit les cœurs de deux personnes qui s'aiment et les unit dans l'unité et l'indissolubilité. »
À vos souhaits.
Ben, je trouve quand même que c'est très fort ce mot-là. Hein. Jésus rétablit ainsi l'ordre qui était à l'origine.
Alors, mais à la création, c'est Adam et Ève, c'est ça?
Mm-hmm.
Mais Adam, il a couché avec Ève.
Ouais.
Puis Ève, elle a couché avec ses fils.
Ouais, mais déjà, Ève, elle est venue, je crois, d'une côte d'Adam.
Ouais, c'est super bizarre, son truc-là.
Ouais, c'est assez bizarre. Et donc, cet article, en fait, il continue, il dit, sans jamais citer les personnes en situation irrégulière dans les yeux, aux yeux de l'Église, divorcée, homo, personne vivant en union libre. Le pape a par ailleurs rappelé le devoir de la miséricorde, condamnant une Église aux portes closes qui, au lieu d'être un pont, devient une barrière. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la fin. L'Église, a-t-il dit, ne doit pas pointer du doigt pour juger les autres, mais se sentir le devoir de chercher et de soigner les couples blessés avec l'huile de l'accueil et de la miséricorde.
Il propose un massage.
Ouais, alors il est bien gentil, les religieux sont bien gentils, mais que, enfin, qu'il lâche les gens, quoi, ça serait bien, en fait.
Mais j'adore les gens qui ne pratiquent pas, en théorie, qui donnent des leçons à ceux qui pratiquent.
C'est assez énorme. Et puis là-dedans, on doit soigner les gens, donc.
Bah oui, on est
vouloir être
malade,
libre hein. Est donc une maladie quand même, parce qu'on peut divorcer, parce que à un moment donné on se rend compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, donc ce qui est plutôt une forme d'émancipation, on va vers la liberté,
qui évite quand même de s'atrophier les uns sur les autres, quoi.
Et ben ça, donc, c'est à soigner. Bon, ben effectivement, je souhaite à ceux qui continuent de penser que les religions sont émancipatrices et tolérantes de continuer de les soutenir, hein, tant qu'elles sont pas au pouvoir. Et donc voilà, enfin, il a fait tout un truc sur l'esclavage du plaisir, du dieu argent.
En fait, c'est là qu'il est fort, parce qu'il sait qu'avec un discours pseudo-anticapitaliste, il arrive à se mettre dans la poche une partie de la gauche et de l'extrême gauche mondiale. Oui. Et c'est là qu'il est super fort. Enfin, moi, je pense que faut pas sous-estimer ce pape François Ier, qui justement a très bien étudié la rhétorique et sait comment brouiller les cartes. En fait, c'est pas compliqué. Il a regardé ce qu'ont fait pas mal d'islamistes, notamment en Iran dans les années 70, et il applique la même formule. Voilà. Mm-hmm. Non mais c'est historique, hein, donc vous avez qu'à chercher un peu. Mais...
Ouais, ouais. Ah mais c'est presque paraître révolutionnaire.
C'est
quoi.
Ça. C'est-à-dire... Et ça marche en plus.
Mais oui, ça marche.
C'est ça qui est le plus triste.
Bien évidemment. Et bon, je vais quand même terminer par la fin de son texte. C'était « Il semblerait, a-t-il fustigé, que les sociétés les plus avancées soient justement celles qui ont le taux le plus bas de natalité et le taux le plus élevé d'avortement, de divorce, de suicide et de pollution environnementale et sociale. » Bon.
Donc sa proposition, c'est qu'on devienne des arriérés, c'est ça?
Bah ouais, je sais
pas. Parce que si le problème, c'est qu'on est dans une société avancée.
Bah oui, oui. Non,
bah... Elle est con, sa phrase.
Bah en même temps. Non, mais enfin.
Devenez arriérés pour aller mieux.
Bah voilà, c'était un message du pape.
Cette chronique est sponsorisée par le Vatican.
Enfin voilà. Alors on va passer à une autre news, hein, qui celle-là date du 9 octobre, hein, toujours dans la continuité de ce synode en fait. Et alors là, cette info, elle est, je sais pas si elle est plus germante que les autres en fait. Je crois qu'elle se va lasser, mais donc là en fait, c'est un échange qui est assez surréaliste, hein, réellement. Donc c'est en plein synode sur la famille, la 7. C'est une chaîne italienne. Elle est allée interroger un prêtre de la ville de Trente, Trente, excusez-moi, d'Angelo Flame sur l'homosexualité, quelques jours après le coming out du prêtre dont je vous parlais au début de cette chronique. Et donc, là, il part sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, et il dit « La pédophilie, je peux comprendre ». C'est la vidéo, elle est disponible et c'est Courrier International qui l'a traduite. L'homosexualité, je ne sais pas. Je suis beaucoup allé dans les écoles. Les enfants, je les connais. Et malheureusement, il y a des enfants qui cherchent de l'affection parce qu'ils n'en reçoivent pas chez eux. Ils peuvent parfois tomber sur un prêtre qui cède, et ça, je peux le comprendre. Étonnement de la journaliste. Donc, ce seraient les enfants qui... Il la coupe en lui disant, en bonne partie, oui. Donc, on a quand même un gars, là, qui dit la pédophilie, en fait, c'est de la faute des enfants. Ah, c'est toujours pareil, hein, les viols, c'est la faute des victimes.
On est... 2015, hein, c'est ça, c'est
2015, c'est ouais, 2015.
Est, là, après la naissance du mec qui n'existe pas, là, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est juste hallucinant. Alors, bon, bien évidemment, hein, là, l'Église, enfin, bon, la condamnation du pape, il a dit que c'était pas bien de parler comme ça.
Ouais, c'est pas bien de le dire à la télé.
Oui, c'est ça, en fait.
C'est a priori, dans l'Église, tu peux dire ce que tu veux tant que ça se sait pas.
C'est à peu près ça.
Parce que le monsieur, là, a priori, ça fait des années qu'il est.
Mais bien évidemment.
Donc, je pense pas que c'est la première fois qu'il doit tenir ce genre de propos. Et d'un seul coup, parce que c'est à la télé, oh, mais non, mais dis, faut pas le dire.
Mais je veux dire, mais bien évidemment, enfin, je veux dire, et ça, c'est quand même juste hallucinant et toujours pareil, quoi. C'est, ça passe, c'est pas grand chose, hein, c'est rien.
C'est énorme parce que quand on connaît le poids. Le poids qu'a encore malheureusement la religion catholique en Italie et à quel point elle est imbriquée dans les rouages notamment de la justice italienne, c'est hyper inquiétant d'avoir un gars qui légitime la pédophilie.
C'est ça. C'est quand même, enfin voilà, donc toujours encore, hein, c'est toujours la beauté de toutes ces choses que peuvent nous offrir ceux qui sont dans leur religion, là. Voilà, on va passer pour calmer cette tension qu'on pourrait avoir à une autre superbe réaction des religieux. Donc, c'est une info qui nous vient du Canada. Alors là-bas, en fait, au Canada, il y a le gouvernement et la Cour suprême qui sont en train de travailler à un projet pour légaliser le suicide assisté.
L'euthanasie, en fait.
L'euthanasie. Mmh. Et bien évidemment, hein, les religieux cathos n'ont pas pu s'empêcher de donner leur avis. Donc ils n'ont toujours pas compris, en fait, que le mieux, ce serait que la religion, elle reste dans le domaine privé, et que la société civile, c'est nous qui nous en occupons.
Mmh, hein, tout à fait.
Les religieux dans les temples, et puis la rue à tout le monde. Et donc, je vais vous citer aussi là ce qui a été dit. Enfin, grosso merdo... pour eux, c'est juste incroyable de donner ce droit au suicide. Qu'est-ce qu'ils disent encore ? Alors, ça légaliserait un geste qui, depuis les temps immémoriaux, a été jugé immoral.
Ça, c'est complètement faux, en plus, d'un point de vue historique. Mais
c'est juste, encore une fois, ils viennent faire chier avec leurs dogmes et ils font, encore une fois... une généralité de plein de choses et enfin je veux dire
ils font leur dogme le dogme principal parce qu'il y a des religions même dans le monde où l'euthanasie est vue comme quelque chose de positif. C'est le fait d'abréger les souffrances de quelqu'un qui n'a pas à souffrir sur terre, parce que c'est pas parce que les chrétiens ont choisi de souffrir comme Jésus sur sa croix que tout le monde a envie de le faire.
C'est
d'ailleurs
ça.
Petite parenthèse, Mère Teresa, quand elle avait besoin de soins palliatifs, ils l'ont bien envoyée aux États-Unis pour être mise sous coma artificiel, pour qu'elle ne souffre pas trop au moment de sa mort. Hein. Elle qui avait des mouroirs, voilà.
Faites ce que je dis, ne dites pas ce que je fais. Hein, les religieux.
Ne faites pas ce que.
Vous ne faites pas ce que je
moi,
dis.
Moi, je sais plus.
Enfin bref, vous avez compris l'idée.
Peut tromper mille fois une personne.
Qui jette, enfin bon.
Vas-y.
Et donc, on continue sur cette déclaration. Enfin, je ne veux pas en faire trop long, mais il disait plutôt que de pencher vers une solution qui encourage le suicide, les évêques invitent les autorités canadiennes à offrir des soins de longue durée, des soins à domicile et des soins palliatifs de grande qualité. Comme si tout ça s'opposait. En fait, c'est
non,
tout le truc.
Tout va ensemble, c'est ça qui est nul.
Et c'est, enfin, bref, je continue, hein, parce que. Et ils appellent aussi les futurs élus à oser débattre des questions relatives à la vie et à la mort. C'est quand même génial d'être invité par des religieux qui t'interdisent de t'interroger sur leurs dogmes, mais qui voudraient qu'on en parle. Voilà. Et donc, ils trouvaient qu'un délai d'un an avant le changement de la loi serait trop court. Ils ont demandé aux autorités de prolonger à 5 ans.
Oui, puis 100 ans, même s'ils veulent.
Ouais, jusqu'à la mort, quoi. De plus, les évêques canadiens ont souligné leur devoir de défendre et protéger le droit de la conscience des hommes et de femmes engagés dans les professions aidantes.
Alors ça, c'est dégueulasse, parce que c'est le même truc qu'ils ont fait en France pour l'avortement. Mmh. Et ça pousse après à ce que des médecins puissent dire « Non, moi, je pratique c'est pas ça, parce que c'est ma clause de conscience, je sais pas quoi. » Et ça, c'est juste dégueulasse, en fait.
Et il dit donc « C'est un affront que de leur demander de collaborer à la mise à mort intentionnelle d'un patient. » Enfin, ils ont justifié leur prise de position par leurs adhésions aux valeurs de Jésus-Christ, profondément humaines et vivifiantes. Jésus-Christ. Enfin bon.
Le gars qui a fini sur un cintre.
Hein ?
Le gars qui a fini sur un cintre, comme
bah
il
oui.
Poulvord.
Ouais, et puis c'est le même qui a écrasé un oiseau pour pouvoir le ressusciter. Enfin, oui, son histoire vrai. Est quand même pleine de sang et de mort. Et donc.
C'est vivifiant.
Oui, c'est vivifiant, effectivement. Hein, la mort, c'est assez vivifiant.
Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est toujours les mêmes vieux préceptes qui ressortent et que surtout, c'est toujours avec les mêmes sous-entendus, comme quoi on va obliger, on va imposer, on va ceci. Mais enfin, on va pas, c'est pas parce qu'il y a une loi sur l'euthanasie va passer qu'on va obliger tout le monde à devoir être euthanasié. C'est pas ce que permet la loi. Enfin, c'est juste débile, quoi.
Et puis, enfin, de toute façon, que les religieux l'oublient, c'est toujours pareil. Des fois, on peut se dire, mais pourquoi on fait ce genre de chronique? Parce qu'on sait que les religions sont cons. Mais je pense qu'il faut continuer de le démontrer parce que ils nous donnent suffisamment de preuves tous les jours. Mais que là, encore une fois, on est où dans la liberté individuelle de choix? Bordel, la personne qui est malade, qui se sait malade, qui va, enfin, comme tout le monde, vers la mort, mais là, dans des conditions plus atroces, etc. Elle a bien le droit, je pense, dans une société avancée, de pouvoir choisir le moment où, elle se dit que là, je vais peut-être pas finir plus légume que ce que je suis, quoi. Enfin, et c'est peut-être là où on devrait voir du respect et tout ça, en fait.
Et oui, c'est ça.
Mais bon, enfin.
Puis, pour être clair, la chronique que tu fais là, moi, elle m'intéresse beaucoup parce qu'on parle énormément de l'islam en ce moment.
Ah, bah oui.
C'est une façon quand même de démontrer que les autres religions, et notamment la principale en Europe, on l'aura dit, est tout aussi rétrograde.
Oui, c'est ça.
Si ce n'est la différence qu'ils n'ont pas le pouvoir, donc ils ne peuvent pas se permettre de lever des armées pour décapiter des gens, mais je pense que ça irait assez vite s'ils l'avaient.
Oh ben quand même, hein. Je veux dire, on n'en est pas arrivé non plus à la séparation des religions et de l'État pour rien, hein. Faudrait pas l'oublier. Et donc, allez, ma dernière news, parce que sinon on va vraiment, vraiment tarder, c'est une première condamnation de l'Église en Colombie, et ça c'est vraiment
c'est
top,
chouette.
Pour une affaire d'abus sexuels sur mineurs, c'est une info qui date du 9 octobre. Donc l'Église catholique est pour la première fois sanctionnée par la justice en Colombie.
En tant que personne morale.
C'est ça, mais ouais. Et alors, je continue. Pour une affaire d'abus sexuels sur mineurs, il devra indemniser les victimes d'un prêtre déjà condamné en 2010, a annoncé la Cour suprême le 8 octobre. L'Église a été condamnée à payer 64 millions de pesos colombiens, c'est 20 000 euros. Ce serait donc la première fois qu'elle versera une indemnisation pour des agressions commises par un prêtre. Alors, le prêtre, lui, en fait, il est déjà emprisonné, en fait, parce que cette histoire ne date pas d'hier. Par contre, ce que je voulais quand même souligner encore une fois, c'est que l'Église, en fait, avait porté le jugement en appel, hein, bien évidemment, en faisant valoir qu'il contrevenait à la mission pastorale du duc. C'est le nom de famille du curton.
Ouais, du prêtre.
La Cour suprême estime plutôt que l'Église est responsable, puisque le prêtre a profité de son statut religieux pour perpétrer ses crimes.
Ben, c'est très bien comme
jeu. Ben oui. Donc voilà, quoi d'autre? Ça termine par au moins 4 des 5000 prêtres en Colombie ont été accusés d'agression envers les enfants depuis 2010. Voilà pour les infos. Je pense qu'on pourrait en faire des comme ça toutes les semaines.
Mais on va peut-être pas le faire.
Mais on va pas le faire. Mais en tout
mais
cas,
un jour, peut-être une émission anticléricale sur Radio Canus, si quelqu'un a envie, ça peut être.
Oui, ou peut-être qu'un jour, on arrivera à inviter la Fédération de la Libre Pensée.
Oui, aussi,
Parce que aussi, je rajoute, il y a une manif, pensez-y, en décembre à Paris, je crois que c'est le 5. Je vous redonnerai encore les infos, j'en ai déjà parlé, mais allez-y, c'est la Fédération de la Libre Pensée qui appelle à manifester. Voilà. Bon, on va peut-être écouter un peu de musique.
Bah oui.
Allez, à la découverte des mots.
Je redessine un château fort. Pour faire casser ma gueule de bois. Je regarde la mort, page 303. Je vois page 267, des cache-pots, des cache-nez, des cachets, des cachalots, un mâchoire sans dents, le nerf facial, corde du tympan. Il y a la photo de Fernand Fourreau, dont personne n'a rien à cirer. De panda et de catin. Okayama est au Japon. Ok, j'aime se trouve en Belgique. Les ruines du Parthénon côtoient les paralytiques. Pas de photo de Brigitte Bardot. Mon dictionnaire est démodé. J'apprends tout de même que Ecce Homo ne veut pas dire être pédé.
Vous êtes bien de retour dans la causerie sur Radio Canu et on vient de s'écouter Mansfield Tia avec un titre qui est issu de leur dernier album Corpus Inferno qui s'appelle Le Dictionnaire Larousse.
Et c'est toujours magnifique, comme ben toujours oui. Avec Mansfield.
Oui, allez.
Et ben on va continuer en vous présentant une BD qui vient de sortir sous l'égide de Jack is on the Road, autrement dit Zélium. C'est les éditions Zélium qui sont lancées et qui ont sorti la BD de Clé. Alors, Cli et Clé, c'est une illustratrice et, on va dire, satiriste nantaise qui dessine depuis maintenant une quinzaine d'années à peu près et qui fait partie du collectif du Chat qui pue. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc, vas-y.
Bah, effectivement, après, elle fait partie aussi d'autres collectifs. En fait, elle fait des affiches, elle fait plein de trucs.
Des pochettes d'albums.
Des pochettes d'albums voilà. Aussi. Alors après, c'est toujours pareil, c'est très compliqué de parler de BD à la radio, etc. En tout cas, si vous pouvez, je crois qu'il y a son blog sur lequel vous pouvez trouver certaines de ses planches.
On mettra le lien sur 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 le blog de l'émission.
Et enfin, si vous aimez l'humour grinçant
et gras,
et
noir.
Ouais. Enfin si ça pue un petit peu, si c'est à prendre avec des petites pincettes,
tout ce qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui en théorie, elle le fait.
Ouais, et elle le fait vraiment très bien. Elle a un coup de crayon qui est magnifique. Enfin, ses personnages sont souvent très très beaux. Enfin, moi j'aime beaucoup. Enfin, vraiment. Et quoi dire d'autre?
Moi je vais juste écrire par exemple la pochette. Vous avez trois jeunes filles qui regardent de haut une petite rouquine qui a dans son dos un pot avec des frelons. Et la petite rouquine leur dit: alors, on est copines ou pas? Voilà, je pense que vous voyez à peu près l'image. Et puis, vous dire que c'est tout à peu près sur ce ton-là. c'est assez décalé, c'est assez parfois glauque, mais c'est un petit peu aussi une bonne façon de voir notre société, parce que voilà, Clé, elle fait, elle prend pas des pincettes et elle aime bien aller au bout des choses. Il y a des choses terribles comme un petit garçon qui rentre chez lui et le petit Martin n'a pas de chance, son père ne supporte pas qu'il se batte, alors on voit le père qui lui met une peignée énorme dans la gueule et c'est un homme très violent. Et puis bah, le lendemain, le petit Martin n'a vraiment pas de chance, son père est atteint d'une forme d'amnésie assez rare, il oublie ce qu'il fait d'un jour sur l'autre. Voilà. Et c'est juste, c'est très cynique, hein, volontairement, mais je trouve que c'est Clé. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle faisait dans Zélium. Oui. Et ce qu'elle fait toujours, d'ailleurs, parce qu'elle l'a publié dans Zélium. Voilà, et le fait que c'est un recueil qui prend à peu près 7 ans de son travail. Mmh. Donc c'est hyper intéressant.
Et ce qui est en plus vachement intéressant aussi, c'est qu'à la fin, en fait, elle a demandé en fait, la participation d'une dizaine d'artistes. Elle leur a demandé de repartir d'une planche qu'elle avait réalisée.
Ouais.
Pour s'inspirer de l'esprit du lieu.
Qui est d'une planche glauque, assez glauquissime à souhait.
C'est super glauque, hein, je crois que c'est une femme qui est sur un chien. Je crois qu'il y a de la gerbe au pied du toilette. Enfin, c'est aussi ça l'univers de Clé. Ouais. Justement, je trouve que c'est intéressant. Et derrière, ben ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant.
Il y a la réinterprétation.
Il y a la réinterprétation d'autres artistes, d'autres dessinateurs, dessinatrices. Et ben, je trouve que c'est vraiment intéressant justement de parce que c'est son premier album à elle et ouais. Ben de l'ouvrir. Je trouve que bah ouais, ça ressemble beaucoup à l'aventure en fait qui était déjà autour du livre, parce que le livre déjà qui s'appelle Gratuit a fonctionné oui. Par le soutien en fait de participatif, comme ça se fait beaucoup en ce moment,
bah de sur Ulule,
c'est ça, de vous, de moi, de tout le monde en fait, de ceux qui peuvent et veulent, et donc voilà, enfin c'est très très bon.
Mais on le trouve donc aux éditions Jack is on the Road Zélium édition, hein, genre du genre Zélium, c'est 18 € pour ceux qui voudraient savoir. La BD c'est toujours un peu cher, ça c'est vrai, mais vous pouvez aller dans vos médiathèques préférées, dans vos bibliothèques préférées, leur dire bah moi je voudrais bien que voir Clé et son album, il s'appelle Gratuit, et les éditions Jack is on the Road Zélium. Voilà.
C'est ça. Et alors, conseil, allez-y à plusieurs. Enfin, regardez avec vos potes autour de vous et dites-leur aussi de passer à la médiathèque. Dire, putain, j'aimerais vraiment lire cette BD. Comme ça, si vous êtes 5, 6, 7, 8, 9, 10,
voilà.
Bah, à un moment donné, ils vont se dire, on est obligé de la commander.
Non, quoi. Mais surtout, soutenez les gens qui émergent comme ça dans la BD. Et surtout dans la BD d'humour noir, parce que c'est très, très rare, les grands dans ce domaine-là. Mmh. Et c'est très, très difficile de se lancer, je pense, dans cet univers-là. Et Clé le fait magnifiquement. Voilà.
C'est ça. Ben, on rappelle donc, c'est la dessinatrice Clé avec l'album qui s'appelle Gratuit, et c'est aux éditions effectivement Jack is on the Road.
Zélium édition.
C'est ça. Allez, on passe à la ZIC, ensuite des brèves, et ensuite on se dit au revoir.
Tic-tac, tic-tac.
Ce soir, au bar de la gare, rigueur à gare, noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc.
Ce grand duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, Kitigor qui s'endort ivrement au comptoir du bar. Un russe blanc
qui est noir, quel bizarre hasard se marre. L'effet tapaillard du bar, car encore Igor y dort.
Mais prête son oreille, merveille, un réveil vermeil. Il lui prodigue des conseils pendant son sommeil.
Tic tac, tic tac.
Takati t'a quitté.
Tic tac tic tac.
Takati t'a quitté.
T'es cocu, qu'attends-tu?
Quitte-toi tes cocu.
Takataka t'a quitté.
Et quitter ton quartier.
Takati t'a quitté.
Ta tactique était toc.
Ta tactique était toc.
Takati t'a quitté.
Oh ta toque qui est troche.
Ton triton tout cranté.
Et ta croûte au couteau.
Quand ta tante attaquait.
Contre-attaque au côté.
Quatre aiguilles tout compté.
Et quitter ton quartier.
Takati t'a quitté.
Tout à côté. Décatin, décati, taquiné, ta coquère. Coquin et d'éthique coquette. En tricotant, qu'à côté t'es discuté, t'es critiqué. Un compte toqué
qui comptait en cliquant, tout un tas de tickets de clé. Ouais. Quand tout à coup, quand tout à coup, quand tout à coup. Au matin, quel réveil matin, quel réveil matin, s'écrit le russe plein de peur. Ouais. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.
C'est une belle sonnerie. Matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrit le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie. Obi la pointe, 2015.
Takati
t'a quitté.
Exercice lyrical.
Exact.
Obi la pointe, CH, le You, Laval,
DJC.
personne.
Et ouais, de retour dans la causerie sur Radio Canu, on vient de s'écouter un titre. Alors, on l'a passé parce que c'est deux artistes qu'on aime. Il y a la reprise d'un titre de Bobby Lapointe, ouais. Bobby Lapointe qui a été très longtemps le générique de la causerie, et qui a été repris par d'autres artistes qu'on adore, qui s'appellent Les Chevals Hongrois, et donc c'était Takati Takité. Et je vous invite à écouter dimanche prochain de 13h. Ouais, le 18, de 13h à 14h, bah, Les Chevals Hongrois, ils seront dans le petit bazar sur Radio Canu. Écoutez, parce que je pense que ça va dépoter et que c'est vraiment très bon ce qu'ils font.
Voilà.
Donc voilà. Bon, on continue avec les brèves.
Je commence ?
Bah écoute, je crois que la mienne, elle est avant la tienne.
Ah, vas-y.
Alors, moi, je voulais rappeler, comme on le fait très souvent, régulièrement, dans la causerie, c'est les permanences juridiques qui ont lieu à la Lutine de 18h30 à 21h tous les lundis.
Pour les personnes sans papier.
Ouais, c'est ça, ou les connaissances de personnes sans pape. Et c'est toujours au 91 rue Montesquieu à Lyon. À toi.
Je continue. Donc le même jour, le lundi, il y a une soirée Radio Canu autour de la méga combi et de la lumière du frigo. A priori, il y aurait un enregistrement de la méga combi en direct et puis un mix de la lumière du frigo, voilà. Et ça se passe à partir de, je dis pas de bêtises, 20h, voilà. Et j'ai perdu où c'était. C'était au Périscope, mais oui, le Périscope, 13 rue de Landine, dans le deuxième, voilà.
Voilà. Eh ben, je crois que c'est toi qui as encore les suivants.
Ah, c'est moi. Alors, je continue parce que j'aime bien. Alors, la conférence réfugiés, une conférence autour des réfugiés palestiniens et de ce qui se passe en ce moment dans les camps de réfugiés palestiniens avec des témoignages de personnes. Ça se passera à la Bourse du Travail à 20h le 14 octobre et c'est proposé par le collectif 69 pour la Palestine. Voilà, je continue.
Ouais.
Il y a aussi donc j'en ai beaucoup à dire. Alors il y a aussi face aux crises, aux crimes sécuritaires, aux violences policières et au racisme d'État, quelle stratégie adopter? Ça c'est une conférence débat qui aura lieu au Canular, 91 rue Montesquieu. Oui, c'est juste à côté de la Lutine, c'est pour ça. Entre 20h et 23h et j'ai mangé le jour. Tiens, dis donc, c'est le 16, pardon. Voilà, le 16 octobre. Puis comme ça suffisait pas, parce qu'on vous en avait pas assez dit, puis vous entendez sûrement le jingle sur Radio Canu qui parle de tout ça, mais on va quand même vous redonner les dates. Vous avez aussi le départ d'une nouvelle marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est un petit peu une marche numéro 2 de la marche des, ce qu'on appelait la marche des beurs, j'aime pas cette expression, mais elle est appelée comme ça dans les médias. Le départ est à 8h et c'est à la pyramide des Minguettes, comme à l'époque. Et voilà, c'est le 17 octobre à 8h du matin, parce que comme vous saviez pas quoi faire, vous allez aller marcher. Voilà, et c'est une bonne idée. Sinon, le 17 octobre à 18h, à Place du Pont, il y a aussi un rassemblement pour la commémoration du massacre du
71.
C'est ça exactement, et c'est à 18h Place du Pont dans le 7e. Mais si vous avez commencé à marcher avec la marche, vous ne pourrez pas être à 18h Place du Pont, donc il faudra qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Donc voilà, vous avez compris. Et sinon, le 17 aussi, à la Griffe, à 17h, se tient un débat autour du livre de Laurence Tain, alors j'ai pas trop compris ce que c'était, ce qu'elle voulait dire, voilà, le travail reproductif. Alors a priori c'est une critique, entre guillemets, du monde médical autour de tout ce qui concerne la reproduction et de l'accès à la PMA, à la GPA et à tout ça. Voilà, si j'ai tout bien compris de quoi ça devait parler. Mais si c'est pas ça, vous me taperez pas.
Non.
Voilà. Sinon, allez sur le site de la Griffe, vous verrez, il y a le descriptif du débat, ou sur le Facebook de la Griffe, enfin, je ne sais plus sur quel endroit on trouve ça. Et donc, redire, le 18, comme vous serez très fatigué après avoir fait tout ça, à 13h, vous allez allumer votre radio sur Radio Canu et écouter le petit bazar avec les Chevals Hongrois.
C'est ça, voilà. C'est formidable.
Et puis vous resterez jusqu'à 22h parce qu'il y aura la causerie, ça vaut le coup de rester aussi.
C'est ça. Interdiction de quitter le poste.
Et vous restez de 13h à 22h, ouais. Sinon.
Attention, nous avons les moyens. Non.
On vérifie, on envoie des gens, il y a des enquêteurs de Radio Canu.
Ouais,
les gens le savent pas. Des fois, il y a des potes, ils passent chez eux, ils leur disent hey, t'écoutes Radio Canu, en fait, c'est un enquêteur de la radio.
C'est ça. Okay. On a plein de RG. Enfin bon, ce que je voulais, si vous voulez vite fait, ouais, parce qu'on a le temps, c'est Radio Canu continue son appel aux dons. lancée il y a plus d'un an. On a dépassé la barre des 30 000 euros. C'est juste énorme. Merci beaucoup à toutes
achète,
celles et ceux.
Et on achète ici.
C'est ça.
C'est 24 rue Sergent Blandan. On va rester ici.
On reste là où la radio est depuis plus de 25 ans.
Depuis 85.
Ouais, c'est ça. Oui, donc bien plus. Et donc voilà, donc si vous voulez continuer de soutenir Radio Canu financièrement, et ben vous pouvez envoyer vos chèques à Radio Canu BP 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Et vous avez aussi, si vous ne pouvez pas faire de chèque ou autre, vous allez sur le site internet de Radio Canu, vous retrouvez le numéro
IBAN
pour faire des virements. Rajoutez juste, petit conseil, quand vous faites votre virement, rajoutez juste don. Campagne de dons.
La raison, en fait,
Raison, parce que c'est pour faciliter le travail des bénévoles qui ici font la compta. Ouais, parce que Radio Canu, on est tous bénévoles. Ouais. Et voilà. Quand on parlait avant de médias libres,
voilà. Ils sont rares, mais il y en a un dans votre oreille.
C'est ça. Et ben voilà, je crois qu'on va se quitter là-dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Oui.
Bon courage à toutes et à tous.
Oui, mais je vais peut-être dire avec quoi on se quitte quand même.
Une très bonne idée.
C'est une bonne idée. Hein.
C'est vraiment une très
Alors,
bonne idée.
Je sais pas si vous avez remarqué, à la causerie, on est un peu tombé amoureux de ce groupe et on vous en met régulièrement et on vous en remettra régulièrement parce qu'on est vraiment tombé amoureux de ce groupe. Ça s'appelle The Cambodian Space Project et c'est une reprise de Kangaroo Boy qui, en cambodgien, a priori, se dit Pros Kangaroo.
C'est ça.
J'espère pas écorcher. Voilà. Et ben oui, comme d'habitude, c'est de la pop bien acidulée, bien sympa. Voilà.
C'est ça. Et ben on se quitte là. On vous souhaite une bonne nuit, une bonne semaine. Bon courage à toutes et à tous.
Courage à ceux qui bossent demain.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Ben merci Clara. À bientôt. Et merci Fab. Et à bientôt. Et puis à plus.
À la semaine prochaine.
Restez à l'écoute de Radio Canu. Ciao.